Il est 18h sur France Culture, l'heure des informations avec vous. Bonsoir.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à toutes et à tous. Des droits, mais aussi des devoirs. Emmanuel Macron s'exprimait aujourd'hui devant les députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles. Le président de la République a notamment assuré qu'il n'aimait ni les castes, ni les rentes, ni les privilèges. Décryptage à suivre avec Frédéric Seyss. Et puis, nous nous intéressons également à cette enquête parue opportunément aujourd'hui dans les colonnes du journal Le Monde, où l'on apprend qu'après un an de présidence, Macron, le regain de confiance est en partie dissipé. L'hyper-présidence version Erdogan, cette fois-ci le chef de l'État turc a entamé aujourd'hui un nouveau mandat de 5 ans avec de vastes pouvoirs dénoncés comme autocratiques, ce qui ne l'empêchera pas de devoir faire face à un certain nombre de dossiers épineux. Anne Handloer nous appellera d'Istanbul. Enfin, la stratégie annoncée en fin de semaine dernière par Theresa May pour sortir le Royaume-Uni de l'Union Européenne semble déjà menacé après le ministre chargé du Brexit. Hier soir, c'est au tour du secrétaire au Foreign Office, Boris Johnson, de claquer la porte du gouvernement. C'est donc sous les honneurs de la garde républicaine qu'Emmanuel Macron est entré tout à l'heure au palais pour lancer véritablement l'an 2 de son mandat et plus encore sans doute pour essayer de donner une vision, sinon une visibilité aux parlementaires réunis pour l'occasion à Versailles. Frédéric Seyss, vous êtes sur place, bonjour.
Bonjour.
Alors on ne reviendra pas nécessairement sur les critiques entendues, répétées de l'opposition, en particulier de la part de ceux qui avaient décidé de boycotter ce congrès, la France insoumise en tête, et qui, comme l'an dernier d'ailleurs, dénonce toujours encore un exercice narcissique et monarchique de la part du chef de l'État. Malgré tout, Frédéric, le président a tout de même tenu à répondre presque point par point à toutes ces critiques qui lui sont adressées.
Oui, à ceux qui dénoncent une pratique arrogante du pouvoir et même une dérive monarchique, Emmanuel Macron a répondu dès le début de son discours par ce mot « humilité ».
J'ai dit humble mais résolu et je veux vous faire une confidence. Il y a une chose que tout président de la République sait. Il sait qu'il ne peut pas tout, il sait qu'il ne réussira pas tout. Et je vous le confirme, je sais que je ne peux pas tout, je sais que je ne réussis pas tout.
Voilà l'autoportrait d'un président faillible en quelque sorte, mais pas jusqu'à reconnaître de mauvaises décisions, en particulier sur sa politique économique, largement contestée dans les enquêtes d'opinion, dénoncée par l'opposition sur le thème président des riches, critiquée jusque dans la majorité qui demande à ce que l'exécutif muscle sa jambe gauche. Voilà ce que répond le chef de l'État.
Je n'aime ni les castes, ni les rentes, ni les privilèges. Et je crois qu'il existe des réussites qui ne se traduisent pas par l'enrichissement pécuniaire, mais la création de richesses, la prospérité d'une nation sont le socle de tout projet de justice et d'équité. Si l'on veut partager le gâteau, la première condition est qu'il y ait un gâteau. Et ce sont les entreprises, rassemblant actionnaires, dirigeants et travailleurs, ce sont les producteurs qui font ce gâteau, et personne d'autre.
Voilà, métaphore pâtissière pour Emmanuel Macron qui voit dans la suppression de l'impôt sur la fortune l'un des ingrédients pour renouer avec la prospérité. Mais la prospérité, pourquoi faire? Le président français a rejeté toute vision purement économique de la société française. Selon lui, cette prospérité doit permettre l'émancipation, libérer le déterminisme du déterminisme social, lutter contre les peurs. Pour atteindre cet objectif, le président a dessiné le menu des mois à venir. Il a cité le projet de loi sur l'apprentissage, la réforme de l'assurance chômage. Il a aussi justifié le report de la présentation du plan pauvreté à la rentrée, plutôt, je cite, que dans la torpeur de l'été.
Voilà un discours de justification, donc, voire d'auto-justification, avec finalement assez peu d'annonces. Frédéric, vous en avez tout de même saisi une. Emmanuel Macron reviendra l'an prochain et cette fois-ci, il restera dans l'hémicycle pour écouter l'opposition et lui répondre.
Oui, actuellement, la Constitution lui interdit de rester dans l'hémicycle pendant que les groupes parlementaires réagissent à la tribune. Ils sont d'ailleurs encore en train de le faire ici à Versailles. En d'autres termes, le président n'a pas le droit d'écouter l'opposition. Eh bien, cela va changer l'an prochain. Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de proposer un amendement afin que le président puisse rester et même répondre aux critiques. C'est en quelque sorte une manière de parachever le régime présidentiel de la Ve République. Un chef de l'État qui intervient devant le Parlement, qui lui rend des comptes et qui répond à ses critiques, à une différence. Près, elle n'est pas mince, c'est que le président français n'est pas responsable devant les parlementaires et qu'il ne peut donc pas être destitué par eux.
Frédéric Seyss en direct de Versailles, merci à vous et à Marc Garvenès pour la technique. Alors il aurait été beaucoup dit que ce congrès de Versailles était censé impulser un nouvel élan au quinquennat d'Emmanuel Macron. Il est évidemment beaucoup trop tôt pour savoir si le chef de l'État aura trouvé un second souffle à Versailles. Seule certitude, selon l'enquête annuelle menée par Ipsos Soprasteria sur les fractures françaises et publiée aujourd'hui par le journal Le Monde, après un an de présidence Macron, l'optimisme des Français s'est bien dissipé. Stéphane Robert, bonjour.
Oui,
bonsoir.
On savait déjà que la cote de popularité d'Emmanuel Macron était en baisse, mais ce que montre cette étude, c'est qu'au-delà de la traditionnelle crise du politique, émerge aussi et surtout une véritable crise de la démocratie.
Oui, ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'elle montre un net reflux de l'espoir et de l'optimisme généré par l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017. Pour s'en rendre compte, il faut examiner les questions posées aux personnes interrogées. Par exemple, estimez-vous que la France est en déclin ? À cette question, sous François Hollande, 75% des personnes interrogées répondaient par l'affirmative. L'an dernier, elle n'était plus que 69%. Aujourd'hui, ça remonte légèrement, mais ça remonte 70%. Même chose quand on les interroge sur la nécessité, oui ou non, que la France se protège davantage du monde qui l'entoure. En 2017, 53% considéraient que le pays devait renforcer ses protections face à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est nettement plus, presque 60%. Et il faut mettre ça en corrélation avec cette question sur la confiance envers la présidence de la République en tant qu'institution. L'an dernier, 44% des personnes interrogées disaient avoir confiance. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 34%, 10 points de moins. Alors que s'est-il passé ? Bien, il ne faut pas y voir les effets d'une politique qui serait brusquement désavouée par une majorité de Français. Non, Macron fait à peu près ce qu'il a dit qu'il ferait, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Mais il y a un doute qui s'accentue sur la finalité de son projet. Un doute d'abord sur les intentions. Macron est-il sincère ? Est-ce bien au bénéfice de tous qu'il mette en œuvre toutes ces réformes ou bien uniquement pour les plus privilégiés ? Et puis, doute également sur la faisabilité de son projet, notamment au niveau européen. Les fractures entre partenaires européens apparaissent de plus en plus béantes. Les populismes progressent, notamment en Italie, on l'a vu. L'Europe se montre aussi en grande difficulté face à une immigration perçue comme une menace. Et plus globalement, le monde dans son ensemble apparaît aujourd'hui plus menaçant, avec comme symbole un Donald Trump complètement incontrôlable. L'élection d'Emmanuel Macron en 2017 avait fait reculer ses doutes et ses craintes. Ils reprennent de la vigueur aujourd'hui.
Stéphane Robert, merci. La menace judiciaire se resserre autour du Rassemblement National, l'ex-Front National, on l'a appris aujourd'hui. L'eurodéputé Nicolas Bay, pressenti pour conduire la liste du parti d'extrême droite aux européennes, mais aussi Thierry Légier, le garde du corps de Marine Le Pen et deux autres collaborateurs, ont tous été récemment mis en examen. Hier déjà, la justice française avait ordonné la saisie de 2 millions d'euros qui devaient être destinés au parti. Les juges soupçonnent l'ex-FN d'avoir mis en place un système frauduleux d'emploi fictif pour rémunérer ses permanents avec les deniers européens. En France toujours, c'est peut-être l'autre scandale de la Dépakine, ce médicament déjà soupçonné d'avoir causé des troubles mentaux chez les enfants exposés aux produits dans le ventre de leur mère. Après les effets sanitaires, donc voici les méfaits environnementaux. Selon l'association France Nature Environnement, l'usine de Sanofi à Mourenx, où le groupe pharmaceutique produit la Dépakine, rejetterait des matières dangereuses à des taux astronomiques. Véronique Robérod, bonjour.
Bonjour.
Sanofi a réagi aujourd'hui à ces accusations. Le groupe pharmaceutique reconnaît un problème, mais minimise les risques d'exposition pour la population.
Et ce, malgré des taux de rejet toxiques ahurissants, jusqu'à 190 000 fois au-dessus de la norme autorisée. C'est le cas pour le bromopropane, c'est une substance qui entre dans la fabrication de la Dépakine. Médicament, vous l'avez dit, déjà dans le collimateur des autorités de santé à l'origine de milliers de malformations congénitales. Le bromopropane, c'est la substance la plus préoccupante d'un point de vue sanitaire, classée cancérigène. Elle nuit à la fertilité au fœtus, elle peut aussi irriter les voies respiratoire et la peau, elle est inodore. Le bromopropane, c'est un des 5 composés organiques volatiles rejetés, eux aussi, dans l'air par l'usine Sanofi, à des taux très très supérieurs aux normes. C'est une inspection lancée en 2017 qui montrera que 2 des 3 cheminées du site ne faisaient l'objet d'aucun suivi de rejet. Rejet excessif dont on pense qu'il se produisait en plus depuis 2012. Les réactions de Sanofi à ces accusations est tout aussi ahurissantes. Certes, il y a bien un problème de dépassement des seuils, des rejets de vapeur de solvants, mais localisé, dit la direction, et Sanofi assure dans son communiqué que les populations ne sont pas exposées à des niveaux supérieurs au seuil fixé par la réglementation. L'usine s'appuie sur une étude d'impact sanitaire qu'elle a elle-même diligentée auprès d'un organisme indépendant, dit-elle. Sanofi, qui assure avoir pris toute la mesure du problème, elle vient sobrement, j'allais dire, de décider d'anticiper de 10 jours sa période de maintenance initialement prévue du 23 juillet à la mi-août.
Véronique Robérod, merci. Autre scandale industriel au Japon. Cette fois-ci, Nissan a reconnu aujourd'hui des falsifications de contrôle de pollution sur ses véhicules. Le constructeur automobile a annoncé avoir mal mesuré les émissions polluantes de 19 modèles de véhicules vendus exclusivement au Japon. La direction assure qu'elle prendra les mesures qui s'imposent pour éviter que cela ne se reproduise pas. Reste que c'est tout de même la deuxième faille repérée en moins d'un an dans les procédures de contrôle du constructeur japonais. En Turquie, après sa double victoire aux élections législatives et présidentielles anticipées du 24 juin dernier, Recep Tayyip Erdogan a prêté serment aujourd'hui pour un nouveau mandat au pouvoir considérablement élargi. Bref, une hyper-présidence dénoncée par ses détracteurs comme très largement autocratique, ce qui ne l'empêchera pas de devoir faire face à un certain nombre de dossiers épineux. C'est une correspondance à Istanbul d'Anne Handlauer.
Premier défi, et non des moindres, Recep Tayyip Erdogan doit sauver l'économie turque de la récession annoncée. La monnaie nationale, la livre, ne cesse de perdre de la valeur, le déficit courant se creuse et les prix s'envolent. Le taux d'inflation a dépassé 15% en juin sur un an, un record depuis 2003. Pour les Turcs, la vie est de plus en plus chère et le mécontentement grimpe, même si une majorité d'entre eux fait toujours confiance à Recep Tayyip Erdogan. Dans le nouveau régime présidentiel, le chef de l'État a la haute main sur la politique économique et Tayyip Erdogan n'a plus d'autre choix que de s'attaquer aux problèmes structurels de l'économie turque. La relance est d'autant plus urgente qu'à peine sorti vainqueur des urnes, le chef de l'État turc affrontera bientôt un nouveau rendez-vous électoral, des municipales prévues en mars 2019. Ce scrutin, qui pourrait à son tour être avancé de quelques mois, s'annonce crucial pour l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, qui a certes remporté les dernières législatives, mais avec un score inhabituellement bas et en perdant sa majorité absolue au Parlement. En fait, cela fait des années que la popularité de l'AKP s'érode, notamment chez les jeunes et dans les centres urbains. On l'a vu l'an dernier, lors du référendum sur le régime présidentiel, 60% des jeunes avaient rejeté le texte et dans les deux plus grandes villes turques, Istanbul et Ankara, le non l'avait emporté. Ces élections locales feront office de nouveaux tests, mais la reconquête de son électorat sera un défi de longue haleine pour Recep Tayyip Erdogan.
Au Royaume-Uni, dans la foulée de la démission du ministre chargé du Brexit hier soir, aujourd'hui, c'est Boris Johnson qui a décidé à son tour de claquer la porte du gouvernement. Tous deux accusent la première ministre de céder trop et trop facilement aux Européens. De son côté, Theresa May, en dépit de la colère des plus farouches partisans du Brexit, a promis de s'en tenir à la stratégie annoncée en fin de semaine dernière pour sortir son pays de l'Union Européenne. Après le départ à la retraite inattendu du juge Kennedy à la Cour suprême, Donald Trump doit annoncer aujourd'hui le nom de celui qu'il a choisi pour lui succéder. Alors, il ne fait d'ores et déjà garde de doute que ce sera un juge très conservateur. Quoi qu'il en soit, le président américain ne dévoilera son choix qu'à 21h, c'est-à-dire une heure de grande écoute pour laquelle toutes les télés ont d'ailleurs chamboulé leur programme. Ils sont désormais 8 des 13 jeunes footballeurs coincés depuis la fin juin dans une grotte inondée de Thaïlande à être hors de danger. Les sauveteurs ont récupéré aujourd'hui 4 garçons après l'extraction réussie la veille des 4 premiers par des plongeurs d'élite, mais la difficile poursuite des opérations à venir s'agissant des 5 derniers suscite encore bien des inquiétudes. Comme chaque soir, direction à présent le Festival d'Avignon avec Joël Gaillot. Aujourd'hui, le Grand Théâtre d'Oklahoma, c'est le titre de ce spectacle signé Madeleine Louarne, laquelle met en scène une troupe de comédiens handicapés mentaux dans des textes de Kafka, une représentation dont l'intensité est évidemment décuplée par la fragilité singulière de ces comédiens.
Ce que l'acteur handicapé mental amène sur la scène du théâtre, c'est une incertitude, un trouble, une faille entre le normal et l'anormal, un gouffre entre le jeu et le non-jeu, un abîme entre ce qu'on croit savoir et ce qu'on ne sait en fait pas du tout. Madeleine Louarne, metteur en scène, ne travaille qu'avec les femmes et les hommes handicapés de l'atelier Catalyse, un ESAT qui se trouve en Bretagne. Pourquoi ? Parce qu'avec eux, elle affronte des questions qui ne trouveront jamais de réponse. Et que ces non-réponses sont la raison même de créer qui stimule un artiste. Est-ce que ces personnes sont vraiment des acteurs ? Se demande certains spectateurs dont le malaise à la sortie du spectacle, quand ce n'est pas le rejet, est palpable. À ceux qui hésitent, on a envie de répondre oui. Oui, cette jeune femme trisomique, ce jeune homme entravé, cette autre qui bafouille, oublie ses mots, bégaye, celle-ci encore qui avale ses mots, tous sont comédiens, malgré leurs trous de mémoire, leurs élocutions hasardeuses, leurs gestes maladroits, leurs hésitations répétées. Oui, ils sont comédiens et le sont d'autant plus dans ce spectacle qui va puiser chez Franz Kafka des textes qui leur vont comme un gant. Qui suis-je ? Comment me regarde-t-on ? Quelle est ma place dans cette société, s'interroge l'auteur. Des phrases reprises à la volée par les acteurs qui jouent ou qui jouent à jouer. Décidément, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, ce qu'ils disent, ils le vivent. Ils ne sont pas des marionnettes au service d'une cause qui oublierait l'art pour n'être qu'humanitaire ou compassionnel. Alors pour résumer Thomas, le Grand Théâtre d'Oklahoma, c'est de l'émotion, du sourire, une présence, des corps singuliers, de la sincérité, le tout dominé, emporté, transcendé par ce petit quelque chose qui s'appelle le talent. Et ça, ça change tout.
Un mot de météo rapidement. Le temps de ce mardi sera encore assez largement ensoleillé sur la plupart des régions pour les prochaines heures. Attention toutefois au risque d'orage sur les Alpes du Sud et le relief Corse. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé avec Jean-François Braun.